Nous voici à nouveau dans les rues du vieux Chartres sous un beau soleil d'été en compagnie de notre guide conférencière de l'Office de tourisme, la talentueuse, très talentueuse Véronique Domagalski. Et eh bien, nous reprenons la balade où nous l'avons laissée, dans les jardins de l'évêché.
Donc ici, ce jardin de l'évêché, avec donc cette aile, donc là le palais épiscopal, un palais où résidait l'évêque. Bon, évidemment, il a été remanié à plusieurs reprises, il n'y a qu'une cour intérieure qui est assez ancienne, visible, 14e siècle. Mais sinon, ici, imaginez que lorsqu'on a construit cette aile, eh bien en dessous, là, il y avait des maisons construites, des petites maisons de bois. C'était les maisons des pauvres, hein, qui étaient à flanc de coteau, qui étaient protégées justement par ces murs. Et lorsque l'évêque a vu sous ses fenêtres tous ces pauvres, il a demandé à ce qu'on construise des jardins. Et c'est comme ça qu'on a eu les premiers faubourgs à Chartres.
Pas de pauvres sous mes persiennes.
Voilà, un petit peu ça, quoi. C'était malheureusement, bon, il y en avait certains qui avaient abusé. On a eu des évêques absolument fabuleux, hein, qui ont participé à la construction de la cathédrale, qui ont donné énormément. Bon, on en a eu d'autres un peu moins drôles. Alors n'oublions pas que dans nos évêques, on en a beaucoup qui ont participé aux écoles de Chartres. Les écoles de Chartres, qui avaient été fondées un peu avant Fulbert, on avait déjà des écoles qui étaient là, où on enseignait donc toutes ces matières, astronomie, on avait la dialectique, la rhétorique, la musique, et on avait des étudiants qui venaient de l'Europe entière pour pouvoir écouter nos maîtres de Chartres. Donc on avait une grande valeur intellectuelle ici. Oui. Et puis en plus, c'était une école qui était réputée pour être très naturaliste. À l'époque où on était essentiellement théologique, là c'était déjà un enseignement quasiment universitaire. Et c'était ça qui innovait énormément au niveau des écoles de Chartres. Bon, malheureusement, avec les universités qui se sont créées, l'indépendance de ces universités par rapport aux écoles épiscopales, ouais, par rapport au pouvoir religieux, eh bien, à ce moment-là, les écoles de Chartres ont commencé à décliner. Et c'est là que Chartres n'est plus une ville universitaire. Mais imaginez quand même qu'au Moyen-Âge, on avait ici des étudiants qui venaient de partout pour écouter nos maîtres de Chartres. Ça, c'était vraiment quelque chose de fabuleux à l'époque. Alors voilà, on descend donc dans ces jardins ici, avec donc ces étapes, et on va rejoindre un tertre. Alors un tertre à Paris, c'est le sommet de la colline, la place du Tertre. Ici à Chartres, ce sont les pentes qui relient ville haute et ville basse. Alors maintenant, on a des escaliers. Mais imaginez qu'au Moyen-Âge, c'était de la terre battue, de l'herbe. On avait quelques aplats de pierre pour empêcher l'eau de trop raviner quand il pleuvait. Mais sinon, tout était vraiment très simple, très rudimentaire. Et c'était par là que les éviers remontaient.
Quand même. Quel travail, oui.
Oui, c'était quand même assez délicat, difficile. Alors vous remarquerez que dans certains tertres, on a des bancs de pierre sur les côtés, le tertre Saint-François, qui relie en fait la partie Saint-Aignan à Saint-Pierre. Eh bien ce tertre Saint-François, il y a de nombreux bancs de pierre sur les côtés qu'on appelle de reposoirs, qui permettaient donc à nos porteurs d'eau, à nos éviers, de se reposer, de reposer la charge surtout. Ils posaient les outres sur ces bancs de pierre et après continuaient leur remontée.
Alors quand il y avait de la boue, etc., on imagine le chantier que ça devait être.
C'était très glissant ici. D'ailleurs, les enfants, bouchez-vous les oreilles, c'est ce que je dis toujours. Ce tertre ici, à un certain moment, avait un nom un peu plus savoureux. On l'appelait le tertre de la glisse putain. Et oui, alors non pas, moi je dis toujours, il faut faire attention à ce terme, parce qu'à cette époque-là, c'était le qualificatif qu'on donnait à une jolie fille, un peu légère certes, mais une jolie fille. Et comme les demoiselles à cette époque-là ne portaient pas de sous-vêtements, imaginez avec ce tertre pentu, boueux, ça glissait facilement et les messieurs se mettaient en bas pour se rincer l'œil. C'était surtout ça le tertre.
Les hommes ne changeront jamais, dit.
Eh ben non. Vous voyez, entre le petit monsieur Grivois près de la maison du saumon et ici, mais on avait quand même une très très grosse activité dans tout le quartier. Donc ici, de toute la journée, ça n'était qu'un va-et-vient de les porteurs d'eau, les marchands, les gens qui remontaient de la ville basse vers la ville haute, les pèlerins qui arrivaient, certains arrivaient par cette route, puisqu'on avait le chemin de Compostelle qui passe ici. Donc on avait vraiment...
Oui, j'imagine le grouillement de population.
Voilà, vraiment, on avait une population tout à fait hétéroclite en plus, des gens qui venaient de tous horizons, des riches, des pauvres, et tout le monde ici cheminait. Quand on parle des bouchons quelquefois, Paris hein, bien sûr, mais à Chartres hein, aussi le matin quelquefois, eh bien il faut imaginer qu'on avait ce genre d'encombrement dans les remontées vers la ville haute au Moyen-Âge quand il y avait les grands moments de pèlerinage.
Est-ce qu'on peut comparer ça? Parce que moi une image me vient à l'esprit, celle des souks marocains par exemple.
Ah presque, tout à fait. On avait vraiment ces odeurs au moment des marchés, hein, quand on avait les marchés. Alors attention, les marchés n'étaient pas tous au même endroit. Nous maintenant, quand on a un marché, on a tous les produits frais qui sont au même endroit, viande autant que les épices, les légumes, etc. Au Moyen-Âge, c'était par zone. On avait les volailles d'un côté, on avait le lait de l'autre, on avait voilà différents marchés. Donc, mais ça grouillait comme ça dans toute la ville, ça circulait, on avait des odeurs. Et comme les rues étaient étroites, eh bien évidemment, il fallait passer, il fallait se faufiler. Alors vous imaginez en plus les gamins à cette époque-là. Là, qui devaient essayer de récupérer des miettes de nourriture parce que certains n'étaient pas très riches, donc on essayait de récupérer comme ça un petit peu à manger et on demandait aussi aux pèlerins d'aider hein, tous ces pauvres.
Nos villes sont un peu tristes aujourd'hui comparées à cette...
Quand on va près de la cathédrale, oui. En ce moment, je dirais que toute la période entre avril, octobre, période Chartres en lumière, si vous allez tous les week-ends près de la cathédrale, on est loin d'être une ville très, très triste.
Alors, hein. Pas triste, mais nos villes modernes sont moins populeuses, évidemment.
Disons que oui, il faut imaginer, moi je dis souvent aux dames qui aiment faire les boutiques, je dis il faut imaginer la ville médiévale comme une ville perpétuellement en solde. C'est-à-dire qu'on avait l'effervescence des soldes en permanence, voilà. C'était plus dans cet esprit-là, où on avait les devantures ouvertes, les échoppes ouvertes sur la rue, parce que ça, c'était important. Le travail des échoppes, c'était pas forcément recevoir le client à l'intérieur de la boutique, mais aussi de vendre directement sur la rue. D'ailleurs, le mot échoppe a donné l'anglais shop, et si nous faisons du shopping, c'est parce que nous avions des échoppes au Moyen-Âge.
Ah, mais c'est plus que du franglais.
Voilà, exactement. C'est véritablement du franglais. Alors ici, donc la collégiale Saint-André, alors moi j'encourage pendant tout l'été les gens à aller voir d'abord une magnifique exposition à Philippe le Jeune. Vous avez à côté le petit jardin médiéval, jardin à l'ancienne, jardin des Simples, donc on a des petites plantes, comme ça tout est mélangé, c'est absolument savoureux. Et puis donc cette collégiale Saint-André, magnifique, c'était l'église presque la plus grande après Saint-Pierre et la cathédrale. Donc on a vraiment ici quelque chose qui était important, collégial, romane. Alors on a des parties romanes, on a des parties qui sont plus récentes, mais ici imaginez qu'à l'arrière il y avait un pont au-dessus de l'eau. Ce pont supportait le chœur, un pont se trouvait également au-dessus de la rue du Massacre, et ce pont supportait une petite chapelle, donc elle avait presque le double en longueur. Et tout ça était l'œuvre, cette rallonge de l'église, était l'œuvre de Jean Texier, Géant Texier, très connu à Chartres, parce que c'est lui qui a fait la flèche nord de la cathédrale. Jean de Beauce, c'est lui.
Ah, Géant de Beauce, ah oui.
Notre fameux Géant de Beauce. Alors j'aime beaucoup d'ailleurs le mot Jean, l'écriture ancienne du mot Jean, hein, mais je trouve que ça lui va bien parce qu'on a envie de dire un géant. C'était un géant de l'architecture. On lui doit énormément de choses. Alors tout d'abord la flèche nord de la cathédrale, l'architecture du Tour du Cœur. Le pavillon de l'horloge, au pied de la tour nord, d'ailleurs, c'est intéressant. La flèche nord est gothique flamboyante. Le pavillon de l'horloge et du XVIe siècle. On est Renaissance déjà. Donc lui, il est passé d'un style à l'autre, du gothique flamboyant à la Renaissance. Style italien.
Ce géant de beau, c'était un compagnon, comme on dit, non ?
C'était un architecte, un maître d'œuvre, quelqu'un qui aimait le bel ouvrage et qui avançait très très bien dans son travail. Donc il avait fait l'arrière de la collégiale Saint-André, mais il a également renforcé l'arrière de l'église Saint-Aignan. Parce que si vous regardez notre église Saint-Aignan, elle est construite sur les anciens remparts du IXe siècle. Et à un certain moment, ça s'affaissait dangereusement au niveau du chevet. Et il a donc renforcé tout l'arrière de l'église.
On lui doit beaucoup.
Déjà, il y avait cette idée de sauver le patrimoine. Et donc, on lui doit énormément au niveau construction, mais aussi sauvetage et préservation.
Alors, cette fontaine-là... Les touristes perdus, Véronique, vous allez leur porter secours. Oui.
Bonjour mesdames.
Bonjour. Enfin, mesdames et messieurs.
Alors, on est perdu? Alors, vous allez remonter la rue du Massacre et il y a un pont de pierre là-bas.
Ah oui, à gauche, on est à droite.
Et c'est juste en dessous la petite chaîne avec le lavoir.
Et en fait, on n'est pas du bon côté.
Voilà.
D'accord, très bien.
Voilà, donc cette chaîne, en fait, la planche et la chaîne, on mettait la planche au niveau de l'eau. Ça permettait aux lavandières d'être tout le temps avec l'eau courante. Comme là, le niveau est assez bas, le niveau de la rivière, eh bien, elles auraient descendu la planche au maximum pour pouvoir laver le linge.
D'accord.
J'en profite pour vous poser la question. Ça vous plaît, cette visite de Chartres là, pour
très, très bien. Extraordinaire. Sous le soleil, en plus.
Vous venez d'où?
Alors, de Lille.
D'accord. Et donc, c'est la première fois que vous veniez à Chartres?
Non, j'ai déjà découvert Chartres avec sa cathédrale, mais il y a très très longtemps, et je suis ravie de revenir.
Véronique, bravo. Vous y êtes pour quelque chose.
Bon
voyage.
Amusez-vous bien. Donc là, c'est la fontaine Saint-Nicolas. Donc c'était ici que venaient nos éviers, les porteurs d'eau. Donc on avait nos porteurs d'eau qui venaient là, qui remplissaient les outres. Là maintenant, elle a été évidemment bouchée, mais on avait vraiment une activité importante à cet endroit. D'ailleurs, je signale toujours qu'elle a servi même pendant la Seconde Guerre mondiale, quand les canalisations ont été bombardées, qu'on n'avait plus d'eau dans la ville, eh bien on a réutilisé cette fontaine. Et vous savez qu'il y avait des lavandières jusque dans les années 60 à Chartres. Il y avait des dames qui lavaient le linge dans la rivière. Et ça, c'était vraiment fabuleux. D'ailleurs, pendant tout le 19e, début du 20e siècle, où ces dames allaient au lavoir laver le linge, quand on faisait la lessive de printemps. Vous savez, on a un peu ce réflexe encore maintenant. D'ailleurs, dès qu'arrive le printemps, les beaux jours, on se dit « Ah, je vais faire mon grand ménage ». Ça nous vient du Moyen-Âge. Cette lessive, on la faisait quand? Au moment du carême. Pour quelle raison? Parce que la rivière était propre. Les tanneurs ne travaillaient pas, on ne tuait pas les animaux. Donc la rivière était très très propre, l'eau claire. En plus, on venait de sortir de l'hiver, donc il n'y avait plus de gel, là, il n'y avait plus de glace sur la rivière. Donc l'eau était tout à fait possible pour le lavage. Donc tout le monde descendait à la rivière et on faisait le lavage de printemps.
Dans une ambiance qu'on imagine.
Alors c'était Radio Lavoir, parce que évidemment toutes les nouvelles passaient par ces lavoirs. Nos lavandières qui allaient dans les maisons chercher le linge, qui allaient le rendre, etc. Elles savaient tout ce qui se passait à l'intérieur de chaque maison et elles transmettaient aux autres lavandières qui allaient donner les bonnes nouvelles ou les mauvaises aux autres habitants de Chartres. Donc c'est comme ça qu'on savait s'il y avait eu des naissances, des morts pendant l'hiver, où on avait vraiment toutes les nouvelles de Chartres.
Est-ce qu'il y avait des querelles de femmes comme dans l'Assommoir, là, de Zola ?
Oh oui, certainement. Vous savez, les bonnes nouvelles se propageaient, mais les ragots aussi. Hein, donc certainement, se bataillaient au bord de l'eau. Mais bon, le métier de lavandière, c'était quand même un métier très rude. Il faut imaginer que ces femmes, même quand il faisait des températures quand même assez basses, elles allaient à la rivière. Certaines, évidemment, devaient se mettre à genoux. Elles se mettaient à genoux. Alors, vous savez dans quoi elles se mettaient à genoux? Un carrosse. C'était une boîte en bois avec de la paille à l'intérieur. Ça permettait d'adoucir en fait la douleur sur les genoux parce que toute la journée comme ça a frotté et donc elle lavait le linge dans des conditions pas toujours faciles.
Mais carrosse, c'était ironique ça, non ?
Non, c'était le nom de la boîte. C'était le nom de la boîte.
Cuir noir, bracelet, clou, banane, tatouage de marin. Et je quitte jamais mes Santiac parce que Santiac ça craint. J'suis pas mielleux, plutôt loupard, affilé des frissons. On m'appelle Gary Malabar, retenez bien mon nom. Gary Malabar. C'est le rock'n'roll, le show et les groupies. J'ai toujours détesté l'école et ma Gibson m'a choisi. J'travaille le style de Johnny Cash, la classe de Brent Setzer. J'veux que ce soit l'hystérie quand je lâche mon plus beau mi majeur. Malabar, mets tes pantoufles et viens manger. Ici Gary, la ramène pas. Ton prénom c'est Benoît. Maintenant tu vas faire ce qu'on te demande. Et surtout tu t'écrases. Tu faisais peut-être le king dans ta bande, mais pour toi y'a de l'eau dans le gaz.
Gary Malabar. L'école qui nous a appelé, tu traînais où encore cette fois? Si tu redoubles ton CP, ça va chauffer pour toi. Demain on te colle en internat et t'es privé de Gibson. Et c'est papy qui t'emmènera sur sa Davidson.
Gaga, papy Malabar.
Gary Malabar par Alex Toucourt. Nous reprenons notre voyage à travers le temps et l'espace dans les ruelles du Vieux Chartres au bras de Véronique Domagalski, guide conférencière à l'Office de Tourisme. Nous voici en Basse-Ville dans la rue du Massacre. Bon, j'en ai la chair de poule.
Donc voilà cette rue du Massacre où se trouvait l'abattoir de la ville. Et donc là, vous voyez les arches du pont. On a ici le pont Saint-Thomas, qui est un pont piéton. C'est le plus petit pont de la ville basse. Alors, il faut savoir que beaucoup de ces ponts étaient des ponts-levis pendant très longtemps. C'était des ponts de bois parce qu'on avait le port qui était là. Et c'était là qu'on déchargeait les marchandises.
Oui, on est dans le port de Chartres.
Là, on avait le port de Chartres qui était ici. Donc, on déchargeait. Alors après, il s'est mis un peu plus loin, un peu plus haut. On avait donc ce port où on déchargeait. Alors, en général, c'était des produits comme le sel. On avait du vin également qui arrivait ici. Parce que même si on avait de la vigne à Chartres, le vin n'était pas ce qu'on appelle excellent. Donc, il fallait à tout prix aller chercher du vin ailleurs. Et puis, nous, on commerçait notre blé déjà. On avait donc tous ces produits qui remontaient donc vers Paris, vers d'autres contrées.
Donc l'Eure était navigable, il y avait beaucoup de bateaux comme ça.
Alors,
sur la rivière.
Alors c'était les chemins, on avait, bon, l'Eure n'était pas excessivement navigable, puisque dès le XVIe siècle, la navigation sur l'Eure s'est un peu stoppée, mais on avait les chemins de halage, donc on tirait ces bateaux à fond plat, parce qu'évidemment la rivière n'est pas profonde, mais on les tirait donc avec les chemins de halage. y avait les mules, les ânes qui traînaient ces bateaux jusque Chartres, et puis après on repartait. Et d'ailleurs, on a eu, quand, au moment où on a commencé à ne plus utiliser la rivière, il y avait 6 bateaux qui étaient ici à Chartres, à quai, et qui ne servaient plus à rien. Donc ça a été une polémique un petit peu, qu'est-ce qu'on fait de ces bateaux? Est-ce qu'on les brûle? Est-ce qu'on en fait quelque chose? Et puis bon, on les a détruits parce qu'évidemment, ils ne servaient plus à grand-chose. Hein. La rivière n'était plus du tout navigable, puisque mal entretenue. Le problème de l'entretien de la rivière, c'était qu'à l'époque, c'était les riverains qui nettoyaient complètement leur portion. Un peu comme nous d'ailleurs maintenant, quand il fait mauvais temps, on est obligé de nettoyer le pas de porte.
Déneiger,
mettre du sel pour permettre aux gens de pouvoir avancer à pied sûr. Eh bien là, c'était la même chose pour la rivière. Mais il y avait des querelles, qui nettoie quoi, qu'est-ce qu'on fait, nanana. Donc c'était un peu problématique.
Bah oui, on est en Gaule quand même. Hein.
On est en Gaule, voilà. On râle avant de faire. Regardez ici ce petit conduit qui est là. C'était des toilettes. Donc on jetait tout par là et ça tombait dans la rivière.
Ouh, la rivière était...
Alors en ville haute, on jetait tout par la fenêtre. Même le pot de chambre du matin. Et là, on avait un animal qui nettoyait, c'était les cochons en ville haute. Le cochon mange tout. Et donc nos cochons bien gras mangeaient tout ce qu'on jetait, ce qui permettait d'avoir des rues à peu près propres. Et en ville basse, on jetait dans la rivière, comme ça c'était les poissons qui nettoyaient.
Enfin, les rues devaient être très odorantes quand même. Hein.
Elles étaient très odorantes. Hein. En plus, c'était beaucoup de boue, puisqu'on n'avait pas de pavage. Maintenant, on dit toujours, on refait le pavage à l'ancienne. Le pavage nous vient plutôt du 17e. Hein. Avant, très peu de rues pavées à Chartres. On avait la rue du Bourg, la rue des Écuyers, hein, la rue Saint-Pierre qui était carrossable. C'est-à-dire qu'on pouvait remonter avec évidemment de la pierre et des pavés. Mais tout le reste, des rues était vraiment de la terre battue, simple, sans pavage.
Je voudrais juste attirer l'attention de nos auditeurs sur cette petite signalétique qui est là sur la rambarde du pont, qui indique que nous sommes sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Exactement. Donc on a le chemin de Saint-Jacques qui arrivait ici, on longeait la fontaine Saint-Nicolas et on remontait par là où on est descendu, par le tertre. Donc c'était la remontée vers la cathédrale.
Il y avait beaucoup de pèlerins sur...
Il y avait énormément de pèlerins. Imaginez que Chartres, au moment de ces grands pèlerinages, Chartres était une ville, elle est 15 000 habitants en moyenne, hein. C'était déjà une grosse ville, hein. Très grosse ville pour l'époque. Eh bien, au moment des pèlerinages, on doublait, voire triplait la population, parce que tout le monde arrivait ici. Et c'est ce qui expliquait la richesse de cette ville à l'époque. Parce qu'évidemment, on faisait étape à Chartres, donc on consommait. Bah, c'était un peu le tourisme, hein, de l'époque. Et donc la ville avait une grosse activité là-haut. Alors à quel moment tout cela a décliné? Je dirais que le premier arrêt s'est fait avec la guerre de Cent Ans. Parce que les troupes anglaises n'étaient pas très loin, mais les troupes françaises non plus. Et qui dit troupes dit armée, et forcément les cultures servaient pour les soldats et non pour la population. Donc on avait tous les champs qui étaient soit détruits par l'installation de ces troupes, soit utilisés directement pour nos soldats, et donc forcément les gens dans la ville commençaient à mourir de faim. Et là, que s'est-il passé? On a tué les cochons et la ville est devenue très sale. Et à ce moment-là, un autre animal s'est installé,
le rat,
et la peste est arrivée. Et on a eu plusieurs résurgences de la peste pendant ces périodes noires, la guerre de Cent Ans, et après c'est revenu à plusieurs reprises.
On retrouve ça dans les archives, ça devait être évidemment terrible.
Ah, c'était terrible, et on a perdu plus de la moitié de la population. Cette peste noire, cette épidémie de peste noire, qui est revenue à plusieurs reprises, parce qu'on pensait qu'elle était partie, puis ça revenait, ça repartait. C'était avec vraiment des grandes périodes. Et puis on a eu à Chartres un traité qui a été signé, on l'oublie toujours. Dans nos manuels d'histoire, on l'a tous vu. 1360, le traité de Brétigny. Alors, beaucoup de Parisiens pensent que c'est Brétigny-sur-Orge, mais non, c'est Brétigny près de Chartres, juste à côté de Sours. Ce Brétigny qui a accueilli le roi d'Angleterre, Édouard III, et le roi de France, Jean II le Bon. Et Jean II le Bon, en fait, n'était pas si doué que ça. Jean II le Bon, dans ce traité, avait donné au roi d'Angleterre la moitié du royaume. C'était un traité néfaste pour la couronne. Et Chartres était donc occupée pendant cette guerre de 100 ans par les Anglais, oui. Par les Anglois. On avait vraiment tout ici était tourné autour des Anglais. Alors il y a une légende qui dit qu'il avait été véhiculée par Froissart, le grand chroniqueur de l'époque, qui dit que le roi d'Angleterre n'aurait pas abîmé la ville de Chartres parce qu'il y aurait eu un grand orage avec la foudre, etc. Et le roi d'Angleterre s'en est remis à Notre-Dame pour pacifier un peu les éléments. Et du coup, il a laissé un peu Chartres en paix, même si c'était une terre anglaise.
Une occupation pas trop sévère, pas trop féroce.
Non, pas trop féroce. Alors, ce qu'il y a eu de drôle, ça a été la libération de Chartres avec Jean de Dunois, compagnon de Jeanne d'Arc, le grand Jean de Dunois et Florent Dillier. Vous savez qu'ils sont rentrés dans Chartres, alors ils ont trouvé une ruse très drôle. Avec, on était à la période de Pâques, juste avant Pâques, et à l'époque, on mangeait beaucoup de poissons. Et ils sont arrivés avec un chargement de poissons au port de Chartres, ils étaient déguisés en marchant, et donc les gardes qui avaient faim un petit peu les ont laissés rentrer moyennant quelques poissons. Évidemment, vous imaginez après la horde est rentrée dans la ville et a libéré Chartres pendant que les troupes anglaises étaient à la messe.
Eh bien, c'est sur cette excellente nouvelle de la libération de Chartres que nous allons nous quitter. Nous nous retrouvons bien sûr la semaine prochaine en compagnie de Véronique Domagalski, guide conférencière de talent et de l'Office de tourisme de Chartres. Ce sera la dernière partie de cette visite dans le passé historique de notre bonne vieille cité d'Écarnuttes. À la semaine prochaine.
Suffiront. Je suis presque mort. Quelques mois et c'est bon. Supprimer les traces, la moindre trace, ce qui reste de candeur. Un morceau de glace. Sentir.